Très bon réveil, voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les dessous de la campagne menée en 2016 en faveur du Brexit révélée par un film qui sera diffusé à la télévision anglaise ce soir alors que le débat doit reprendre cette semaine au Parlement britannique sur l'accord péniblement négocié avec l'Union européenne. La diffusion de ce film très documenté et qui décortique les stratégies de manipulation à l'œuvre à l'époque pourrait constituer un choc au Royaume-Uni.
Et puis dans l'actualité également, des dizaines de migrants toujours ballottés en mer sur deux bateaux d'ONG allemandes et que l'Europe ne veut pas accueillir. Le pape s'est ému de leur sort hier. Il en a appelé à la solidarité concrète des dirigeants de l'Union qui ont visiblement d'autres chats à fouetter, nous dira Marie-Pierre Véraud.
En France, dans ce journal, retour sur le week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Et puis nous parlerons de la reprise des négociations sur le régime des intermittents du spectacle. C'est la volonté du gouvernement, contraire à celle des partenaires sociaux.
Et puis le procès Barbarin qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. Le cardinal doit répondre de non-dénonciation d'agression sexuelle et de non-assistance à personne en péril. Précision de Christophe Vincent.
À 7h15, Guillaume Erner, la question du jour.
Que peuvent les 100 000 milliards de bactéries qui peuplent notre intestin ? Benoît, on posera la question à Marion Leclerc, elle est microbiologiste à l'INRA.
À tout à l'heure. Au Royaume-Uni, hors de question de repousser une fois de plus le vote au Parlement qui validera ou pas l'accord sur le Brexit. Il est prévu la semaine prochaine, ce vote. Interrogée hier par la BBC, Theresa May s'est voulue très claire sur le sujet. À l'approche du 29 mars, date de sortie prévue des Britanniques de l'Union européenne, il va falloir trancher. Cette semaine, à l'occasion de la rentrée politique, doivent reprendre les débats préalables au vote à Westminster. Débats qui pourraient être influencés par une œuvre télévisuelle. La chaîne Channel 4 diffuse en effet ce soir un téléfilm intitulé Brexit, The Uncivil War, qui se propose de révéler les coulisses de la campagne de 2016 en montrant comment l'opinion publique britannique a été manipulée, notamment grâce aux réseaux sociaux. Un homme en particulier est mis en avant dans ce téléfilm, proche de la forme documentaire, le directeur de la campagne Vote Leave. À Londres, les précisions d'Antoine Gignot.
C'est un personnage totalement inconnu. Il est loin d'avoir le charisme de Boris Johnson ou de Nigel Farage, les visages officiels de la campagne des eurosceptiques. Et pourtant, Dominic Cummings, directeur de l'organisation Vote Leave, apparaît dans ce film comme le véritable chef d'orchestre.
Quand vous trouvez un électeur potentiel, vous le travaillez au corps. Une fois qu'il commence à plier, vous ne le lâchez pas. Vous lui dites qu'on fera des 380 millions d'euros d'économie et vous parlez de la Turquie. 380 millions et la Turquie. Allez encore !
Incarné à l'écran par Benedict Cumberbatch, l'ancien conseiller du gouvernement semble tour à tour totalement fou ou complètement génial. Il était temps de le mettre sous les projecteurs, explique le réalisateur James Graham.
C'est Dominic Cummings qui a inventé le slogan sur les 380 millions d'euros. Et le slogan « Reprenez le contrôle ». Il a utilisé Internet en dépensant la majorité de son budget pour des publicités numériques.
Le film ne s'arrête pas sur tous les détails, mais il brosse le portrait atroce et à peine exagéré d'une nation gouvernée par des charlatans et manipulée par des algorithmes.
Antoine Gignot à Londres. Le pape François a appelé hier une nouvelle fois les dirigeants de l'Union européenne à faire preuve de solidarité concrète envers les migrants. C'était lors d'une prière devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre après la messe de l'Épiphanie. Un nouvel appel du souverain pontife à propos de quelques 49 migrants. 49 migrants dont des femmes et des enfants passés par la Libye, secourus ces dernières semaines en Méditerranée et dont le destin semble être de nature à mettre en péril l'Europe tout entière. Marie-Pierre Véraud.
Cela fait donc maintenant plus de deux semaines que 32 migrants, dont des enfants secourus avant Noël le 22 décembre dernier au large des côtes libyennes, sont ballottés sur les flots, attendant de pouvoir débarquer dans un port sûr, sur la terre ferme. Des flots inhospitaliers, la mer est houleuse, les conditions sanitaires se dégradent, alerte le médecin à bord de l'un de ces bâtiments. Car ce sont deux navires d'ONG allemande qui errent ainsi aux portes de l'Europe. Un second bateau a lui secouru il y a une semaine 17 autres exilés. Malte, île la plus proche, leur reste fermée. Le Premier ministre dit redouter un afflux de migrants sur sa petite île s'il laisse un bateau accoster. L'Italie de Matteo Salvini a, elle, déclaré depuis l'été la guerre aux ONG et aux navires humanitaires qui tentent de sauver des vies au large de la Libye. Ce qui ne change pas non plus, c'est l'absence de l'Europe, le silence de ses dirigeants qui pensaient en avoir fini en donnant à la Libye la mission d'empêcher les départs et de ramener les migrants qui tenteraient la traversée à n'importe quel prix. Cette fois-ci, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore plus timidement la France se sont dit prêts à accueillir ces 49 rescapés, mais dans un cadre européen. Or, la solidarité européenne est justement aux abonnés absents. En outre, comment accueillir des migrants alors qu'aucun pays disposant de ports en Méditerranée, Malte, l'Italie, la France ou l'Espagne, n'accepte de laisser un navire accoster.
Marie-Pierre Véraud. Dans un contexte toujours très compliqué, un nouveau médiateur de l'ONU pour la Syrie prend ses fonctions aujourd'hui, 7 janvier. Geert Pedersen n'aura pas la tâche facile. Il arrive en remplacement de Staffan de Mistura qui a jeté l'éponge à l'automne au moment où les forces américaines préparent leur retrait du terrain, même si le calendrier de l'opération semble un peu plus élastique qu'initialement prévu par Donald Trump. Deux émissaires du président américain sont d'ailleurs actuellement en tournée au Moyen-Orient pour en discuter. Quoi qu'il en soit, la mission de Geert Pedersen, ranimer un processus de paix moribond entre l'opposition syrienne et le régime de Bachar el-Assad, s'annonce très complexe. Christian Chéneau.
La crise syrienne a déjà usé 3 médiateurs de l'ONU. C'est peu dire que le poste confié au Norvégien Geert Pedersen ressemble à une mission impossible. Pourtant, ce n'est pas l'expérience qui lui manque. Diplomate chevronné, Geert Pedersen a géré des dossiers délicats tout au long de sa carrière. Au début des années 90, il a fait partie de l'équipe de médiateurs qui a organisé les rendez-vous secrets entre Israéliens et Palestiniens en Norvège et qui déboucheront sur les accords d'Oslo. Il a également été le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU pour le sud du Liban, où en 2006, il s'est retrouvé plongé dans la guerre entre Israël et le Hezbollah. Dans le dossier syrien, marqué par l'impuissance de la communauté internationale, Geert Pedersen aura la lourde tâche de tenter de ranimer des efforts diplomatiques qui sont restés stériles. À l'heure du désengagement américain de Syrie, il devra ressusciter une opposition anti-Assad qui a disparu des écrans radars diplomatiques, tout en amenant le régime de Damas à négocier réellement alors qu'il n'entend rien lâcher. Voilà l'équation insoluble jusqu'ici qui attend le nouveau médiateur de l'ONU sur son bureau.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel en France. Au lendemain d'un nouveau week-end de manifestations des Gilets jaunes marqués par un regain de mobilisation, quelle réponse gouvernementale et quelle possibilité de sortie de crise?
Ce sont les questions du moment. Alors que les Gilets jaunes, sortis renforcés de la journée de samedi, envisagent désormais de se mobiliser également les mercredis. Et ils préparent par ailleurs l'acte 9 de leur mouvement. Et si d'un côté le gouvernement promeut toujours le grand débat national qui va s'ouvrir la semaine prochaine et qui doit durer jusqu'au 15 mars, la tentation est aussi très grande de répondre aux nouvelles violences du week-end par des mesures juridiques plus fermes. Marc Fesneau est le ministre chargé des relations avec le Parlement, dont le siège a été vandalisé samedi.
On est quand même sur des actes, quand vous voyez les images, de gens qui d'abord manifestement se réjouissent de détruire du mobilier, du patrimoine qui n'est pas le patrimoine des ministres, c'est le patrimoine des Français. Et voir avec quelle facilité intellectuelle, d'une certaine façon, certains s'en prennent à ce qui est plus qu'un symbole, mais un lieu de la République. Il y a quand même manifestement maintenant des phénomènes violents qui sont très forts. Il faut qu'on puisse se doter d'outils juridiques dans le cadre de l'état de droit, mais qui protègent la démocratie, parce que c'est bien ça dont il est question, de gens qui ne viennent dans les manifestations que pour casser, et finalement que pour porter l'insurrection à toute occasion. Et peut-être qu'il y a une réflexion effectivement à porter sur les outils juridiques, au-delà des outils de la force, des outils juridiques qui permettent de les identifier et de les mettre hors d'état de nuire d'une certaine façon d'un point de vue préventif. Parce que ce n'est pas des manifestants, c'est des gens qui viennent casser.
C'est aujourd'hui que débute à Lyon le procès en correctionnel du cardinal Philippe Barbarin. Aux côtés de 5 autres responsables du diocèse de Lyon, il comparaît en citation directe pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs et non-assistance à personne en péril. À l'initiative du procès, l'association La Parole Libérée qui défend les victimes présumées du père Bernard Prénat, parmi elles Pierre-Emmanuel Germain-Thil que Christophe Vincent a pu rencontrer.
Il y a 30 ans, Pierre-Emmanuel Germain-Thil s'était confié confié à sa mère, qui avait fini par le retirer des scouts. Seul, démuni, le gamin avait tout gardé pour lui. Quand l'affaire a éclaté, il a raconté son passé et porté plainte pour des faits non prescrits.
C'est plus le prêtre, moi, à qui j'en veux. Mais il y a un degré qui est autre et qu'on ne peut pas ignorer, qui est celui de la hiérarchie, qui sait, qui ne fait pas, qui agit pas, qui presque minimise des fois. Et ça, c'est pas possible. Faut que les gens qui ont tous été liés à ça aient une sanction. Et ça rejoint l'enfant que j'étais, qui se disait depuis des années, si jamais un jour quelqu'un parle, eh ben, ça fera bouger les choses et on pourra avoir justice.
L'Église reproche à l'association de cibler le cardinal plus courageux, pense-t-elle, que ses prédécesseurs.
Les gens pensent que c'est un acharnement sur, enfin, surtout une personne, alors qu'en réalité, il n'y a pas un acharnement particulier sur cette personne. C'est juste en lien avec notre affaire.
Pierre-Emmanuel veut en priorité faire condamner son agresseur.
L'élément clé, c'est vraiment le procès Prénat que j'attends dernière. C'est une libération totale. Peu importe la sanction qu'il y aura, mais du moment qu'il y a sanction, c'est tout ce que je demande et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de victimes.
Ce deuxième procès n'est pas encore programmé.
Reportage de Christophe Vincent. Les organisations syndicales et patronales du spectacle doivent se retrouver ce matin pour renégocier le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Une négociation qui se tiendra à contre-cœur à la demande du gouvernement qui veut qu'un accord soit trouvé d'ici à la fin du mois de janvier. On y reviendra à 7h30. Une actualité qui nous donne l'occasion de nous intéresser aux artistes espagnols qui demandent depuis des années eux aussi un véritable statut de l'artiste et qui ont obtenu ces derniers temps de timides avancées du gouvernement socialiste. Mathieu de Taillac.
Première nouveauté, les créateurs pourront continuer de cotiser à la sécurité sociale même lorsqu'ils ne sont pas rémunérés. De quoi financer leur retraite et les prestations sociales. Mais attention, il ne s'agit pas d'un cadeau, non. Les artistes devront payer les cotisations de leur poche. Au syndicat Comisiones Obreras, Javier Agudo du secteur Art et Spectacle salue un progrès.
Il y a enfin une avancée pour le collectif des artistes qui avait très peu de protection depuis le retour de la démocratie. Le dernier texte est un décret sur le régime spécial de cotisation qui remonte à 1985 et depuis 1985, il n'y a rien eu de nouveau.
Parmi les mesures saluées, les femmes enceintes et les jeunes mamans recevront une prestation pendant leur congé grossesse ou maternité, une nouveauté pour toutes celles qui ne sont pas en CDI et doivent interrompre leur mission. Et puis, d'ici 6 mois, les retraités pourront continuer à écrire, peindre ou chanter et recevront un cachet pour cela, sans pour autant renoncer à la moitié de leur pension, comme c'est le cas aujourd'hui. On reste loin en tout cas du statut des intermittents à la française, qui est une source d'inspiration pour les créateurs espagnols, Javier Agudo.
La législation française est en place depuis très longtemps. C'est difficile pour les Espagnols de copier-coller ce régime. Les Espagnols, on est comme on est, mais on essaye de s'inspirer de ce modèle et le mot-clé pour nous, effectivement, c'est l'intermittence.
Les juristes cherchent la manière de créer un statut ressemblant à celui des intermittents. La difficulté en Espagne, disent les syndicats, c'est que d'autres collectifs, non liés à la culture, pourraient revendiquer, au nom du principe d'égalité, de bénéficier eux aussi de prestations similaires.
Voilà, et dans le journal de 7h30, on reviendra avec Cécile de Kervès-Doué sur les négociations en France sur le régime des intermittents du spectacle. La météo, un temps toujours gris et des conditions anticycloniques sur la France métropolitaine, ce qui donnera un temps sec et bien ensoleillé sur les reliefs, un ciel bas sur la plupart des régions, température maximale de 6 à 15 degrés, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Benoît Bouscarel. Vous savez qu'on ne dit plus bain mon colon, on dit bain mon microbiote. On va parler du microbiote dans quelques instants.